Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Politiquement Vôtre pour un nouveau numéro consacré aux élections municipales de Paris 2026. Aujourd'hui, nous allons accueillir Christophe Prudhomme, candidat LFI pour le 13e arrondissement. Comment ça va Christophe ?
Bon, en pleine forme. LFI et Verts Populaires.
LFI et Verts Populaires.
Une partie des Verts qui nous ont rejoints, hein, ont lâché...
Les fameux qui ont été purgés par Marine Tondelier, c'est
tout
ça ?
Tout à fait.
C'est ça, ok. Et aujourd'hui, pour faire l'émission avec nous, on est avec nos deux étudiantes de l'INALCO, Assia et Ambrine. Comment ça va les filles ?
Bah, ça va très bien, et toi Lucas ?
Chacune son tour, c'est ça. Ambrine, comment ça va toi ?
Moi, ça va super. Hein.
Ça va ? Prête pour cette émission ?
Totalement.
Mais tu m'avais l'air très très déterminée. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, on va accueillir Christophe Prudhomme. Voilà, on est dans Politiquement Vôtre. Cette émission créée par les acteurs sociaux des centres Goscinny et Oudinet, où des jeunes rencontrent des personnalités politiques pour une heure de discussion sur les municipales et sur ce qu'on va faire dans le 13e arrondissement. Alors Christophe, d'abord, avant de passer directement à vos propositions pour Paris, on aimerait connaître un petit peu votre parcours. Ce qui vous a amené à la politique, ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Et je vais laisser Assia commencer. Non, pas Assia. Ambrine, tu commences ?
Très bien.
Allez, c'est parti.
Alors, votre parcours mêle médecine, syndicalisme et politique. Vous vous définissez aujourd'hui d'abord comme médecin, militant ou responsable politique ?
Bah, comme citoyen. Comme citoyen, c'est-à-dire que la politique, c'est la vie de tous les jours. Et bon, en tant que médecin, ce qui m'a motivé, c'est l'aspect humaniste de la médecine. Donc, c'est me préoccuper des autres. Et là, je termine ma carrière. Je vais être à la retraite à la fin du mois. J'ai habité en Seine-Saint-Denis. J'ai travaillé 40 ans en Seine-Saint-Denis au SAMU de Seine-Saint-Denis. Et donc, forcément, on fait de la politique au quotidien. Enfin, la vraie politique, hein, c'est la vie des gens. Voilà, aider les gens à trouver des solutions au quotidien. Moi, je m'occupe beaucoup de la santé, mais c'est pas que la santé. Hein. Et puis, la santé, c'est très large. Hein. La santé, c'est pas que soigner la maladie, c'est prendre en charge les gens au niveau physique, psychologique et social. Voilà. Et je me suis un peu énervé avec un jeune étudiant en médecine, premier de la classe, hein, pourtant faculté de médecine de Bobigny. On est pour aller prendre en charge un patient à La Courneuve, dans une cité. Et je lui dis, tu vois, faut voir comment les gens y vivent, ça a une importance sur leur maladie. Ah, il dit, ah, moi, le social, ça m'intéresse pas. Alors, je lui ai répondu, écoute, si tu continues à faire médecine, il faudra qu'on te mette dans un labo, quoi, mais il ne faudra pas que tu sois en contact avec les patients.
Bonne réponse. Tu veux continuer ? Non, c'est bon. Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes venu à la politique. Est-ce que vous avez une famille très politisée ? Vous avez des discussions politiques à table ? Ou est-ce que c'est venu par le syndicalisme, par le monde du travail ? Qu'est-ce qui vous a amené à porter des projets politiques et à défendre
J'étais jeune dans une banlieue qu'on appelait la Ceinture Rouge. Hein.
La fameuse.
Voilà, donc dans les années 70, j'étais au lycée. Il y avait ce qui s'appelait le syndicat des lycéens, qui s'appelait l'Union l'UNCAL. Union nationale des comités d'action lycéens, donc à 14 ans, et puis après, la jeunesse communiste, l'Union des étudiants communistes, le Parti communiste, l'UNEF, la CGT, voilà, et j'ai été aussi élu dans ma ville à Pantin, très jeune, voilà un petit peu. Donc j'ai toujours fait et de la médecine et du syndicalisme de la politique.
Très bien. Et du coup, au niveau de la santé, vous qui êtes médecin, qu'est-ce que vous constatez depuis 10 ans ? Ça va faire bientôt 10 ans que Macron est élu président. Comment vous l'avez vécu ces deux quinquennats en rapport avec l'hôpital, la santé, la prise en charge des patients ?
Bah c'est la casse de notre système de protection sociale. C'est la logique néolibérale pour Monsieur Macron et sa famille politique. Enfin, s'il a une famille politique, c'est la santé et un service marchand comme un autre. Voilà, donc c'est le modèle américain, très inégalitaire. Hein. On peut avoir les meilleures cliniques du monde sur la côte Est quand on est blanc, riche, sur la côte Est ou en Californie quand on est blanc, riche. Puis pour les autres, quand on regarde les indicateurs de santé des quartiers noirs de Chicago dont est originaire M. Obama, les indicateurs de santé publique sont ceux de l'Afrique. Voilà, donc, on voit bien, et c'est pas, vous voyez, c'est pas faire du catastrophisme que de dire ce qu'on avait prévu. On l'a vu venir, le scandale d'Orpea, le scandale des crèches, à partir du moment où on laisse des marchands œuvrer dans ces secteurs-là, on n'est plus dans la logique du service public. On peut penser ce qu'on veut du marché, ça peut être un autre débat politique, mais à partir du moment où les investisseurs investissent dans un domaine, leur logique, c'est le meilleur retour sur investissement. Et le meilleur retour sur investissement, c'est forcément ce qui s'est passé dans les EHPAD. C'est-à-dire, voilà, on tire sur tout, sur le personnel, la nourriture, et les crèches, c'est exactement la même chose.
Ce que vous dénoncez, on le voit de deux façons. Ça veut dire qu'il y a effectivement le privé qui est mis en avant, et il y a aussi la casse des services publics. J'ai vu que vous étiez notamment beaucoup investi contre la fermeture de lits à l'Hôtel Dieu, c'est à l'hôpital Bichat. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital à Paris? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Ben voilà, l'Hôtel Dieu, c'est le plus vieil hôpital de Paris, qui est idéalement situé, hein, en plein cœur de Paris, face à Notre-Dame. On s'est battu pour maintenir un hôpital, y compris en faisant évoluer les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas qu'il y ait de nouveau des services très techniques à l'Hôtel Dieu. Pour ça, on pouvait les concentrer sur d'autres établissements. Mais à l'Hôtel Dieu, on avait un projet en particulier pour les urgences. Moi, je suis urgentiste en disant bon, on a besoin de ce service d'urgence parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent. Et on voulait que ce service d'urgence soit particulièrement dédié aux touristes parisiens. Voilà, quand ils ont un problème de santé, parce qu'on avait y compris la possibilité de les héberger en attendant qu'ils soient rapatriés dans leur pays. Voilà, donc c'était un projet cohérent et qui a été refusé pour faire une opération immobilière. Il faut savoir que ça fait plus de 20 ans que je me bats contre la fermeture de l'Hôtel Dieu. Ce qui était prévu au départ, c'était une opération immobilière avec le Qatar, quand même. Hein. Et là, c'est quand même une opération immobilière avec une boîte française, Novaxia, qui a été condamnée par l'autorité des marchés financiers pour une malversation en bourse. On a le maire adjoint de Madame Hidalgo, M. Messica, qui a validé cette opération avec le directeur général de l'assistance publique, Martin Hirsch. M. Messica quitte son mandat en 2020 et quelques mois après, on le retrouve où? Au comité exécutif de Novaxia. Voilà, bah c'est le monde des copains et des coquins, quoi. Ça suffit.
C'est finalement un montré macroniste, ce qu'ils font à chaque fois. Assia, vas-y, ta prochaine question.
Donc, on voit bien que ça fait très longtemps qu'on fait un peu les mêmes constats sur ce qui se passe dans les hôpitaux, aux urgences, etc. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche réellement les réformes d'aboutir? Est-ce que ce serait un problème politique, administratif ou culturel dans le système de santé français?
Ah non, c'est politique. C'est politique. On avait un des meilleurs systèmes de santé au monde, avec la sécurité sociale, qui est quand même un acquis très important de 1945, un service public quand même très développé. Hein, l'Organisation mondiale de la santé avait mis la France donc au sommet en termes de qualité de son service de santé au tournant des années 2000. Et depuis, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé pourquoi? Parce qu'on a ouvert au marché. On a ouvert au marché, ils appellent ça la silver economy, l'or gris pour les personnes âgées au niveau des EHPAD. On est un des pays où on a le plus de cliniques privées à but lucratif. Voilà, faut être clair. On a toujours une médecine libérale avec des médecins qui prennent des dépassements d'honoraires honteux au détriment des patients. Hein, ils considèrent qu'ils ne sont pas assez bien payés par la sécurité sociale. Ils se payent sur la bête. Quel patient? Vous voyez, moi, ma femme dirige le service de santé aux étudiants à Paris. Elle est gynécologue. Elle a mis en place des consultations de gynécologie de secteur 1 dans les centres de santé universitaires. Parce que quand on est jeune étudiante aujourd'hui à Paris, consultation de gynéco en ville, c'est 80 balles, la consultation. Ben 80 balles, le reste à charge, on a beau avoir une assurance maladie complémentaire, il va être de 30 à 40 euros. Ben 30 à 40 euros, vous êtes étudiante, vous savez que ça peut être le budget de la semaine pour manger, quoi. Voilà, donc c'est ça la réalité de ce que vivent les gens. Donc la santé, ça doit relever exclusivement du service public financé par la sécurité sociale. Il n'y a pas de place pour le secteur privé, pour le marché. Nous, on est clair, on veut la fin du secteur privé d'hospitalisation. On veut la fin de la médecine libérale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui pour un vrai service public de santé avec des centres de santé, des médecins salariés, des hôpitaux publics ou parapublics. Hein. C'est pas forcément tout public. On a la chance d'avoir en France un secteur associatif très important, donc le privé à but non lucratif qui gère des hôpitaux, des très bons hôpitaux à Paris, que ce soit la Croix-Saint-Simon, la Fondation Rothschild, l'hôpital Saint-Joseph, ils ont leur place. Par contre, ceux qui font du business, non, dehors. C'est d'autant que, je vais donner une information, un des groupes, le deuxième groupe de cliniques en France, le groupe Elsan, les nouveaux actionnaires depuis 3 ans, c'est des bons actionnaires français, c'est la financière Tétis, c'est-à-dire la famille Bettencourt, et une filiale du groupe AXA. Voilà, il faut que les gens le sachent, ça.
Très bien. Et au-delà de la fermeture des lits, etc., la santé, c'est aussi la santé mentale. Je sais que vous en parlez beaucoup. On a vu vraiment une détérioration de la santé mentale, notamment chez les jeunes, depuis le Covid, etc. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Pour vous, qu'est-ce que vous prenez, au moins sur le 13e arrondissement, pour venir en aide aux personnes qui sont souffrantes, qui ont une santé mentale qui est un peu compliquée?
Alors, ce n'est pas que sur le 13e. Moi, je m'occupe du programme santé aussi. Je suis sur la liste principale sur Paris. Déjà, qu'on arrête de fermer les structures. Là, on se bat en ce moment pour que le centre d'accueil et de crise qui couvre les 5e, 6e, 7e arrondissement de Paris ne ferme pas. C'est le centre Amado. Il y a des urgences, donc on ne va pas suppléer l'État, mais il y a des moyens qu'on peut mettre et qui relèvent, parce que la particularité de Paris, c'est qu'elle est ville et département. Donc, on a un champ d'action beaucoup plus large. Et dans nos mesures d'urgence, on propose d'embaucher 20 psychologues, un pool de psychologues qui sera à disposition de l'ensemble des services de la ville de Paris, y compris avec les partenaires, en particulier les universités, pour pouvoir gérer les urgences et pouvoir orienter ensuite les gens qui sont en difficulté vers le bon système de prise en charge.
Très bien. Ambrine, t'es prête? Vas-y.
Si vous aviez un budget municipal important, quelles seraient les trois premières mesures pour améliorer l'accès aux soins à Paris selon vous?
Alors, ce n'est pas une question de budget. Parce que je vais vous dire comment on va fonctionner. Nous, on considère aujourd'hui que les villes ne doivent pas suppléer les carences de l'État et de la sécurité sociale. Donc, quand on dit qu'on va mettre en place des centres de santé, on va investir dans de l'immobilier. Enfin, l'immobilier, la ville de Paris a énormément de locaux. Donc, on fournira des locaux et la logistique, mais la gestion des centres de santé, on va la confier à ceux qui savent faire, c'est-à-dire l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ou les mutuelles, qui savent très bien gérer les centres de santé. Et donc, pour nous, financièrement, on veut que ça soit une opération blanche. C'est-à-dire que les locaux qu'on fournit, il y aura un loyer, mais un loyer qui sera simplement pour couvrir les frais d'investissement. Mais sur la gestion, l'hôpital, il sait très bien gérer un centre de santé avec ses médecins, ses infirmières, etc. Et tout ça, ça doit être payé par la sécurité sociale avec un budget à l'équilibre. Et je vais vous donner un autre exemple. Hier, j'ai visité un EHPAD dans le 13e, rue de la Santé. Et c'est le seul EHPAD. C'est un EHPAD associatif. Ce n'est pas l'EHPAD à 6 ou 8 000 euros par mois comme il y a dans le Marais ou à Neuilly. Comment ils ont pu s'implanter à Paris? Parce que le bâtiment, c'est un bâtiment, la régie immobilière de la ville de Paris, qui le loue à un tarif très modeste à l'association qui gère l'EHPAD. Et donc ça, c'est une bonne stratégie, effectivement, pour que, eh bien, on aide à mettre en place des structures de santé au sens large avec le médico-social que sont les EHPAD, mais en demandant à ce que l'État finance le fonctionnement. Nous, on va aider à l'investissement, mais on ne veut pas mettre le doigt dans l'engrenage du fonctionnement, parce que si on supplée l'État sur le fonctionnement du service de santé, on aura moins d'argent pour les écoles, pour les terrains de sport, où là, c'est les municipalités, c'est leur responsabilité pleine et entière, il faut qu'elles payent.
Mais ça peut être un cercle vicieux, parce que vous savez que l'État, actuellement, l'État n'est pas forcément prêt à payer cet argent-là.
Non, mais la sécurité sociale, voilà, jusqu'au mois dernier, je siégeais au conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà, donc je connais bien le système. Donc, plutôt que de financer les centres de santé privés, comme c'est le cas à l'heure actuelle, ou de financer l'immobilier de médecins libéraux, ben nous, politiquement, on se battra pour que l'argent il aille vers des services publics. Ce sera une bataille politique avec l'Agence régionale de santé. Mais ça sera dans l'intérêt de l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris. Vous savez, moi, j'y ai travaillé 40 ans, je connais bien le directeur général. C'est dans son intérêt d'ouvrir des centres de santé rattachés à l'Assistance publique. C'est ce que fait l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille aujourd'hui, avec un ancien directeur adjoint de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui s'appelle François Crémieux. Et donc, il y a un centre de santé emblématique qui a été ouvert dans les quartiers nord à Marseille et qui fonctionne très bien. À la fois très bien parce que le personnel est très content de sortir de l'hôpital et d'aller à la rencontre de la population. Et pour la population, quand elle vient dans le centre de santé, le rendez-vous pour le scanner, l'IRM ou pour l'hospitalisation, la secrétaire donne la date et le lieu de rendez-vous. Et puis, c'est du public. C'est-à-dire, on donne sa carte vitale, on donne sa carte d'assurance maladie complémentaire et on n'a pas d'argent à sortir parce que les médecins sont salariés. Quand un médecin est salarié, il n'y a pas de dépassement d'honoraire. Et pour les médecins, les jeunes médecins aujourd'hui, c'est très attractif de travailler et à l'hôpital et dans une structure en ville.
Vous parliez tout à l'heure de Chicago comme exemple de, avec des inégalités très fortes sur un même secteur. On sait que Paris, il y a beaucoup de déserts médicaux à Paris et aussi en banlieue parisienne, mais aussi à Paris. Est-ce que vos mesures avec la multiplication des centres de santé, c'est une façon de répondre à l'absence de médecins et à ces déserts médicaux ?
Mais bien sûr, puisque le rôle politique de la ville, c'est de dire, puisque les conseillers municipaux, les élus municipaux connaissent les besoins. Donc, où va-t-on mettre les centres de santé ? Donc, on va choisir le lieu d'implantation en fonction des besoins. Bon, il y a plus de besoins dans le 13e, 18e, 19e, 20e que dans le 16e, 8e.
Sûrement.
Voilà. Donc, on va choisir cette implantation. On va mettre à disposition les locaux et on va contractualiser avec les gestionnaires. Et vous savez, on n'invente pas la poudre parce que la Fondation Croix-Saint-Simon Rothschild a ouvert déjà, il y a un premier centre de santé qu'ils ont ouvert dans le 12e qui fonctionne, ils vont en ouvrir un deuxième dans le 20e. Donc voilà, je vous donne l'exemple du centre de santé, les centres de santé ouverts par l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Donc c'est une question de volonté politique et d'amorcer la pompe. Voilà, et c'est ce qu'on va faire.
Très bien. Assia.
Actuellement, vous êtes candidat sous l'étiquette de la France insoumise. Qu'est-ce qui vous a convaincu que ce mouvement était celui qui portait le mieux vos combats, vos convictions ?
Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul mouvement politique qui est anticapitaliste. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, quand on défend les services publics, il faut être clair. Hein. C'est le seul mouvement aujourd'hui qui défend le vivre ensemble, qui est contre le racisme, contre l'exclusion, contre la désignation de bouc émissaire. Voilà. Donc, moi, je suis pour qu'on puisse vivre ensemble, se respecter dans un pays qui est la France, qui est divers, varié. Et puis, vous savez, si M. Bardella ou M. Zemmour, et puis leurs affidés, hein, veulent renvoyer chez eux les immigrés, ça va être compliqué pour faire fonctionner les EHPAD à Paris, pour ramasser les poubelles, pour faire fonctionner une partie des hôpitaux, particulièrement l'hôpital à Avicenne. Si on enlève les gens d'origine immigrée, l'hôpital, il ferme, hein. Voilà, enfin, c'est l'ancien hôpital franco-musulman, il a une histoire, hein, sous tutelle de la préfecture de police de Paris jusqu'en 1962. Voilà, donc il y a une histoire en France. Et donc nous, on souhaite que, eh bien, d'une part, on ne réécrive pas l'histoire, parce qu'on veut réécrire aujourd'hui la guerre d'Algérie. Ça, c'est un scandale. Voilà, on nous a accusés d'être antisémites. Moi, je ne suis pas antisémite. Mais par contre, je dis effectivement, clairement, que j'ai des collègues que je connaissais, avec qui on avait travaillé, qui étaient médecins à Gaza, ils sont morts aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je suis contre, effectivement, la politique actuelle de l'État israélien, et dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé. Tuer des médecins, les emprisonner, parce que là, il y a le dernier médecin de Gaza qui est en prison, on n'a pas de nouvelles de lui, il est maltraité, il a subi des sévices physiques. Ça, c'est quand on dit que c'est des crimes contre l'humanité, quand on dit que c'est un génocide, ils ont bombardé les hôpitaux, je veux dire, c'est quand même... Et qu'on accepte ça, nous, la France insoumise, on dit non. Et on nous accuse d'être antisémites pour ça, non. On tiendra droit dans nos bottes, on continuera à dire que c'est un génocide et que l'État israélien, aujourd'hui, est un État voyou et que son dirigeant devra passer devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité.
Effectivement, la libération du peuple palestinien a été au cœur des débats depuis 2 ans et au cœur des revendications de la France insoumise, mais aussi une très vieille revendication historique du Parti communiste français. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le Parti communiste français pour rejoindre la France insoumise ? En quoi vous avez senti que ça représentait mieux vos aspirations ?
Parce qu'il faut faire le bilan quand même. Il faut faire le bilan. Et n'en déplaise à Georges Marchais, que j'ai bien connu, le bilan n'était pas globalement positif. Hein, moi, j'ai été très souvent dans les ex-pays de l'Est. Voilà, enfin, c'est-à-dire le mouvement communiste du XXe siècle, c'est de l'histoire aujourd'hui, pour réinventer autre chose. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je continue à faire des chroniques sur la santé qui sont publiées dans l'Humanité. C'est de l'éducation populaire, puisque l'Humanité reste un journal dynamique, qui n'est plus l'organe central du Parti communiste. Par contre, le Parti communiste, c'est une structure ossifiée qui a du mal à mourir, quoi.
Rien que ça. D'accord. Je vous remercie, Christophe Prudhomme. On va partir sur la deuxième partie, où là, on va parler encore de vos propositions pour Paris, mais on va quitter un peu le cadre de la santé et on va voir globalement qu'est-ce que vous proposez pour le 13e arrondissement. Est-ce que vous avez des questions, vous, les filles, pas pour le moment ? Moi, je vais commencer. On va rester un petit peu sur la santé, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Il y a un problème qui vient à la fois sur celui de la santé et celui de la sécurité parfois, c'est notamment celui des usages de drogue, des personnes qui sont à la rue, etc. On a entendu plusieurs doctrines différentes à ce sujet, le tout sécuritaire, le côté plus médical. J'aimerais avoir votre avis. Comment, puisque vous m'avez dit d'ailleurs que vous êtes sur la commission santé pour LFI sur toute la ville de Paris, quelles sont vos préconisations pour mettre fin à ce problème ?
Ben, d'une part, on s'est battu pour qu'on puisse maintenir la halte soins addiction unique qui existe à la Riboisière. Et notre programme, c'est de créer des haltes soins addiction de petite taille, là où sont les besoins, parce que il faut que ça soit inséré dans les quartiers. Y compris les habitants autour de la Riboisière qui étaient contre la halte soins addiction, aujourd'hui disent que le problème, c'est que c'est la seule et qu'elle attire trop de monde, qu'elle est trop grosse, mais que ça a quand même apaisé les choses. Donc c'est une bonne solution. Les politiques autoritaires en termes de santé publique mènent à l'échec. On l'a vu pendant la crise Covid. La politique hygiéniste aujourd'hui, elle n'est plus acceptée par la population. Voilà, quand il y avait une grande confiance dans les progrès de la médecine, vous voyez, pour si on prend un petit peu l'histoire, quand on avait la tuberculose et qu'il n'y avait pas de traitement antibiotique, on avait obligation d'aller en sanatorium. Et si on n'allait pas en sanatorium, la police ou la gendarmerie venait nous chercher pour vous emmener de force en sanatorium. C'était accepté à l'époque parce que voilà, c'était la protection du reste de la population. Aujourd'hui, il y a une évolution sociale qui fait que si on n'a pas la discussion et une adhésion majoritaire, pas unanime, mais une adhésion majoritaire sur les solutions qui sont proposées, on va dans le mur. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les usagers de drogue, si on veut les prendre en charge, il faut les prendre en charge dans des structures de petite taille avec des moyens proches des lieux où, aujourd'hui, ils sont malheureusement souvent à la rue. On se battra. C'est compliqué parce que quand on trouve des locaux, eh bien, c'est le phénomène qu'on appelle NIMBY, hein, pas chez moi, not in my backyard. Mais franchement, une structure qui va accueillir 40 ou 50 personnes dans la journée, personne ne le verra. Quand on en accueille 300, 400 ou plus, comme à la Riboisière, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de soins, au sens large du soin, physique, psychologique et social. C'est-à-dire que ça veut dire un accompagnement. Trouver un logement s'ils n'ont pas de logement, une réinsertion dans l'emploi, la désintoxication. Voilà, c'est ça notre politique. La politique répressive, c'est une erreur totale. Et puis d'abord, c'est inhumain.
Bien sûr. Mais on sait par exemple que plusieurs candidats se sont férocement opposés aux salles de shoot, qu'il y a une vraie question là-dessus, qu'elles sont un peu diabolisées aussi par la droite. Comment vous les défendez, ces solutions ?
C'est ce que je viens de dire. Les fameuses salles de shoot s'appellent les haltes soins addiction.
Ça veut dire que pour vous, la solution, c'est qu'il y en ait plusieurs à
plein
d'endroits.
C'est qu'on en mette en place un peu partout dans Paris pour que ça soit de petite taille, inséré dans les quartiers. Et puis, ça ne se voit pas. Mais parce que vous savez, cette exclusion, quand on propose dans un quartier un accueil pour des patients psychiatriques, on a exactement le même rejet. Pas chez moi. Voilà. Et à un moment donné, si les gens ne veulent pas vivre à Paris, c'est une ville diverse. S'ils ne veulent pas vivre à Paris, mais qu'ils aillent vivre dans le Cantal, s'ils veulent être tranquilles avec des chèvres et avoir personne autour d'eux. Non, mais il arrive à un moment donné, c'est qu'il faut que chacun fasse un effort. Si on vit, on est dans une ville très, très dense. On est une des villes les plus denses du monde. Hein. On ne s'en rend pas compte, on n'a pas de grande tour, mais on a des rues très étroites, etc. Vous savez qu'on a dans le 11e arrondissement est le quartier le plus dense du monde après Hong Kong. 40 000 habitants au kilomètre carré, on ne le sait pas. Voilà. Et donc, forcément, ça crée des contraintes. Et ces contraintes, elles sont. On parle là des haltes soins addiction. J'ai rencontré récemment dans le 13e, là, des propriétaires de chiens, dans une démarche tout à fait citoyenne de leur part. Ils disent voilà, on a des plaintes contre les chiens, comment on peut trouver des solutions ? Les gens se mettent tous autour de la table et puis on voit comment. Parce que le chien, pour un certain nombre de personnes, parfois, c'est l'animal de compagnie, c'est des gens qui vivent seuls. Et voilà. Bon, après, effectivement, les gros chiens, ils peuvent faire peur aux enfants. Comment on vit ensemble ? Voilà, comment on partage les espaces. Et c'est ça l'idée pour nous, concernant toutes les catégories de population.
Très bien. C'était très clair. Je vous remercie. Ambrine, vas-y.
Alors, moi, je voulais faire un parallèle entre l'environnement et la santé. Et je voulais vous demander, selon vous, est-ce que la politique de santé en France prend suffisamment en compte les enjeux écologiques ?
Ah ben non. Là, ici, dans le 13e, on a l'incinérateur d'Ivry, puis on va nous faire un deuxième à Vitry. Faut arrêter ça. Parce que, vous voyez, là, je prends ma casquette de médecin. Hein. La dégradation de l'environnement est une des causes du développement des cancers, en particulier chez les gens jeunes. Voilà, parce que c'est l'accumulation. Hein, l'accumulation de toxiques modifie le patrimoine génétique. Hein, et c'est comme ça qu'effectivement, on a le développement des cancers. Donc, il faut diminuer de manière drastique toute cette exposition aux polluants. Et donc, ben, y a des mesures simples. Hein. Il faut arrêter de brûler des ordures telles qu'on les brûle aujourd'hui parce que ça dégage des toxiques que l'on connaît. Ça veut dire la circulation aussi automobile, comme on la réduit, mais pas de manière autoritaire. C'est, il faut que, parce que les gens, ils ont besoin aussi de leur bagnole pour pouvoir aller bosser. Voilà, mais comment on améliore les choses mais en ayant une stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme. Aujourd'hui, pour nous, quand on se dit anticapitaliste, c'est pas le marché qui doit imposer sa loi face aux enjeux de santé publique. Vous savez, moi, en tant que médecin, moi, je suis... Je ne suis pas anti-vaccin, je suis plutôt pour les vaccins. Mais comment ne pas comprendre qu'il puisse y avoir des gens suspicieux vis-à-vis des vaccins quand nous-mêmes médecins, on n'a pas eu accès à l'ensemble des études qui ont permis la mise au point des vaccins parce que les lois sur la propriété intellectuelle, sur les brevets, est supérieure aux enjeux de santé publique. Il y a un problème. Voilà. Donc forcément, ça crée une suspicion.
Je remercie. Asia, vas-y.
Alors, moi, ce sera plutôt une question sur la vie, le coût de la vie à Paris, notamment, et pour les jeunes qui, aujourd'hui, ont davantage le sentiment que Paris donc, devient une ville à laquelle il est assez difficile de se projeter. En effet, donc on a des loyers élevés, les emplois sont assez précaires. Ainsi, donc pour vous, que devrait faire la mairie pour éviter que la capitale ne devienne une ville réservée aux gens aisés ?
Eh bien, c'est la thématique qu'on a mis en premier dans notre programme, c'est la question du logement à Paris. Alors, d'une part, en ayant des vrais loyers sociaux, qu'on arrête de construire des pseudo-HLM avec des loyers qui sont inaccessibles aux gens qui ont des revenus modestes.
C'est ça, donc du vrai logement locatif social et pas de l'intermédiaire.
Et pas de l'intermédiaire. Aujourd'hui, 50% des Parisiens gagnent moins de 2500 euros. Donc, et on considère que la charge logement ne doit pas dépasser 30% des revenus.
Or, aujourd'hui, en moyenne, je crois qu'elle le dépasse. On a laissé 33%, alors que c'était 10% dans les années 70.
Oui, voilà. Et quand vous êtes dans une famille monoparentale, ça peut atteindre 50%.
Exactement.
Voilà, donc c'est une catastrophe. Donc, à la fois, on va se donner les moyens de faire baisser les loyers dans le logement social et on va mettre en place aussi, pour le logement privé, une structure municipale d'intermédiaire entre les propriétaires et les locataires, donc où on demande aux propriétaires de nous confier leur logement. Quel sera leur intérêt ? C'est que d'une part, on leur assurera des revenus. Alors, des revenus qui seront inférieurs à ceux qu'ils peuvent espérer selon les lois du marché aujourd'hui. Loi du marché, et même quand il y a l'encadrement de loyer, on a à peu près la moitié des logements privés qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Mais quel est l'intérêt pour le propriétaire ? Une grande partie de ces logements aujourd'hui sont des passoires thermiques. On leur proposera une aide à la rénovation des logements pour monter les dossiers et pour qu'ils puissent faire les travaux. Voilà. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est dans l'intérêt, je pense, des petits propriétaires. Mais par contre, on luttera contre Airbnb. On luttera contre les logements vacants. Les logements vacants, on a une loi aujourd'hui qui nous permet de les réquisitionner. Voilà. Donc, on les réquisitionnera.
Mais c'est jamais fait.
Mais là, la loi...
J'ai jamais vu une mairie le faire.
Eh bien, nous, on le fera. Nous, on dit qu'on le fera. Vous voyez ? Et pour prendre le 13e, eh bien, le monstre, là, de béton, qui est construit sur des terrains hospitaliers et les terrains de la SNCF. Moi, je me suis battu pour que sur ces terrains, on construise des logements pour le personnel hospitalier parce qu'on n'arrive pas à recruter du personnel aujourd'hui, parce que les gens n'arrivent pas à se loger dans Paris. Quand vous êtes en horaire décalé et que vous embauchez à 7h du matin, si vous avez 1h30 de transport le matin, soit vous trouvez un emploi près de chez vous, soit vous renoncez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont abandonné le métier. Voilà, donc c'est quand même une catastrophe parce que c'est trop dur, c'est mal payé, voilà. Donc, mais là, plutôt que de faire un centre commercial, alors c'est en train d'être construit, ça va être terminé. Mais nous, ce qu'on dira, c'est qu'il y a 1 500 000 mètres carrés de bureaux vides à Paris. C'est-à-dire l'équivalent de ce qui a été construit, les mandats d'Hidalgo, c'est vide. Eh bien, le bâtiment, là, qui est le long de la gare d'Austerlitz, ben, on verra pour que ce bâtiment, il soit éventuellement transformé en logement étudiant. Voilà, parce que c'est plus... Pourquoi logement étudiant ? Parce que c'est plus facile de transformer des bureaux en logement étudiant. On en a beaucoup besoin. On a des principaux arrondissements étudiants de Paris. Ben voilà, c'est des propositions très concrètes.
Très bien. Et vous faites bien parler de la jeunesse du 13e arrondissement, parce que j'allais vous relancer là-dessus. On est ici même dans une structure jeunesse. Quel serait, vous, et on disait donc le 13e, c'est un des départements les plus jeunes de Paris.
Arrondissements,
plus, oui. Avec le plus de jeunes à Paris, le 13e, oui, tout à fait. Pour vous, quelle serait votre politique de jeunesse ? Quelles seraient les priorités sur cet axe-là ?
La priorité, c'est pouvoir qu'ils puissent se loger à des tarifs abordables, qu'ils puissent manger à des tarifs abordables. Donc, on a donc des propositions pour que le Crous développe ses services, hein, des vrais restaurants universitaires avec entrée plat dessert, pas des cafétérias. Hein, là, je reprends ma casquette de médecin. Voilà, si on veut lutter contre le surpoids et l'obésité, puis rester en bonne santé, c'est on mange à des horaires réguliers, on s'assoit dans un endroit agréable et on a un repas avec entrée plat dessert. Et on ne bouffe pas un sandwich avec son ticket de resto U. Voilà.
C'est le cas de notre université, donc ça nous parle directement.
Vous n'avez pas de restaurant universitaire, c'est uniquement une cafette
Voilà. Et en termes de santé publique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle nous, pour tous les jeunes, depuis la maternelle jusqu'aux étudiants, on veut développer des vrais restaurants avec de la bonne bouffe, du bio, circuit court, à des tarifs bas, voire même gratuits, pour les premiers échelons du quotient familial.
Exactement. Mais du coup, vous les filles, vous êtes à l'INALCO, c'est ça ?
L'INALCO, c'est qu'une cafette.
Oui, c'est uniquement une cafétéria.
Et est-ce qu'il y a des étudiants qui se plaignent ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites par rapport à ça ? Le fait que quand vous restez à l'université, vous ne pouvez pas manger correctement, que ce n'est pas forcément l'idéal pour suivre des cours ? Il y a une discussion par rapport à ça ou pas du tout ?
Quand on est arrivé la première année à l'INALCO et qu'on leur a demandé où est-ce qu'on pouvait se restaurer, on nous a dit d'aller à l'université d'en face et qu'il n'y aurait qu'une cafette à l'INALCO.
D'accord. Et vous avez une carte particulière pour y aller dans l'autre université ou vous devez payer plein pot
Dans notre carte étudiante, on met de l'argent.
D'accord.
Et c'est un compte Isly dans lequel on peut se rendre dans n'importe quel restaurant universitaire, donc ça va. Mais dans notre cas où parfois le mercredi, on n'a que 30 minutes pour manger,
exactement,
on se résigne à ne pas manger.
Non, mais c'est une régression. Moi, quand j'étais étudiant, on n'avait pas de sous et on mangeait au resto U midi et soir. Il est ouvert le soir. Voilà. Et ça permettait de pouvoir manger deux repas corrects à des tarifs très raisonnables. C'est essentiel. Enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer avec des œuvres universitaires aujourd'hui qui ne sont pas au niveau, alors que le nombre d'étudiants a très fortement augmenté ces dernières années. Le nombre de restaurants universitaires dans Paris, le nombre de chambres gérées par le Crous n'a pas suivi l'évolution du nombre d'étudiants. Or, si on ouvre l'université, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants pauvres. Enfin, je veux dire, parce qu'on a ouvert l'université. Vraiment, c'était très élitiste. Et pour les enfants des CS, qu'on appelle les CSP+, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, d'employés, d'ouvriers. Donc, ils s'auto-censurent, y compris une partie des étudiants. Ils choisissent des études courtes parce que c'est compliqué de pouvoir... faire des études de médecine, c'est 10 ans. Il faut pouvoir vivre pendant 10 ans, hein. Parce que ce n'est pas avec l'indemnité qu'on a quand on travaille à l'hôpital et qu'on est exploité qu'on peut vivre correctement. Voilà, et là, ils ont même inventé une 10e année de médecine pour tout le monde. Ça s'appelle docteur junior. Docteur junior, c'est quoi ? C'est continuer à bosser à l'hôpital ou en ville, mais avec un salaire de misère.
C'est voilà. Ça, rester avec le statut interne et être moins payé.
C'est comme les stagiaires dans d'autres filières. On reste stagiaire avant d'avoir un emploi. C'est
des contrats de première embauche qu'on veut nous recréer encore et encore. Ça, vous les filles, c'est des questionnements que vous avez ? Le fait que les études longues, ça puisse être compliqué par rapport aux finances, etc.
Oui. C'est des questions qu'on se pose même un peu tous les jours. Et c'est un facteur assez important, notamment dans notre prise de décision, comme il l'a dit M. Prudhomme, qui pourrait mener à peut-être abandonner de très longues études, justement, pour éviter...
Vous avez des connaissances qui ont fait ça ? Des personnes qui ont dû abandonner leurs études parce que c'était compliqué ?
Bien sûr.
Okay.
Alors, je vais vous donner une des propositions, parce que je suis aussi conseiller régional, et la région s'occupe des filières sanitaires et sociales. Et bien, ce qu'on propose dans ces filières sanitaires et sociales, c'est une proposition qui ne sort pas comme ça de notre chapeau. Ça existait quand j'étais jeune, vous voyez, dans les années 70, début des années 80. Ce qu'on appelle les contrats d'études pour ces filières professionnelles. Et c'est quoi un contrat d'études? Vous passez la sélection pour rentrer dans l'école d'infirmière, de manipulateur radio, enfin les 14 métiers réglementés dans la santé. Une fois que vous avez passé le recrutement, vous êtes intégré dans l'école, vous signez un contrat d'embauche, vous êtes payé pendant vos études et vous devez un certain nombre d'années dans un territoire, dans un établissement. Voilà. Donc vous êtes payé, c'est pas une bourse. C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand vous rentrez dans votre école professionnelle, vous payez des cotisations sociales et notamment des cotisations retraite à 18 ans. Voilà. Et puis vous savez où vous allez bosser ensuite. Et donc vous pouvez vous projeter un petit peu dans la vie. Voilà. Et donc ça coûterait beaucoup moins cher que le système actuel où on est en permanence en déficit de personnel, on prend des intérimaires, enfin bref, c'est le bordel. Non, d'abord, quand on est jeune, il faut qu'on puisse vivre. Eh ben, le contrat d'études, c'est ce que défend la France insoumise pour les jeunes aujourd'hui. Avec, bon, c'est du donnant-donnant. Hein. Bon, on s'engage à travailler pendant, selon la durée des études, 5 ans, 10 ans dans un territoire ou dans un établissement. Mais voilà, mais si les gens acceptent, eh ben, voilà, ils en ont le bénéfice. Et ça marchait très bien, moi, quand j'étais jeune. Hein. Et ça a marché à la fois pour faire venir des gens de province pour venir travailler à Paris. Hein, on allait chercher des jeunes femmes en Bretagne, où il n'y avait pas de boulot à l'époque, pour faire infirmière. Elles étaient logées, payées pendant leurs études. Et voilà. Et on a même ouvert des bureaux dans les départements d'outre-mer. Il y avait un bureau qui s'appelait le Bumidom. C'est pour ça qu'on a beaucoup de collègues d'origine antillaise qui travaillent à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas le boulot là-bas. Et ben, ils venaient en métropole pour pouvoir se former. Donc, on leur payait le billet d'avion, ils étaient logés. Et puis, bon, une partie sont restées. Et quand même, on leur a offert ce qu'on veut leur supprimer aujourd'hui, ça s'appelle les congés bonifiés, pour qu'ils puissent retourner voir leur famille de temps en temps, pouvoir prendre 2 mois d'affilée de temps en temps de vacances pour pouvoir rentrer au pays.
Exactement. Assia, Ambrine, question? Parce que sinon, moi je continue. Hein. Moi, je continue.
Ah, vas-y.
Je voulais parler, vous parler de la sécurité un petit peu, on en a parlé. Mais j'ai vu que vous étiez pour le retour de la police de proximité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans? Est-ce qu'au niveau de la sécurité, il n'y a pas besoin d'un changement totalement de doctrine avec cette police qui frappe les manifestants, etc.? Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes avec la police, du temps de la police de proximité? Est-ce que c'est forcément la bonne solution pour recréer un dialogue entre citoyens et policiers, etc.? On en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on peut être assez sceptique sur l'utilité de revenir sur ça.
Ah, attention, police de proximité, police nationale, non, nous, ce qu'on dit, c'est... ce que doit être une police municipale. Police municipale, ça doit être la vie du quotidien, les petites incivilités du quotidien, dans le quartier, avec une connaissance du quartier. C'est la raison pour laquelle nous sommes formellement opposés à l'armement de la police municipale.
Donc une police de, comment dire, une police de proximité municipale et qui soit désarmée, c'est ça que vous prônez?
Oui, désarmée, qui ne soit pas habillée en Rambo. C'est le contact avec les commerçants, les jeunes, pour pouvoir gérer les petits conflits du quotidien. Voilà, que ce soit la personne qui se plaint parce que le vélo il roule sur le trottoir, ou la trottinette roule sur le trottoir, ou que la crotte de chien elle est pas ramassée. Allez, voilà, ou que le gars qui sort du kebab il jette l'emballage par terre alors qu'il y a des poubelles partout. Voilà, c'est ça la police de proximité. C'est pouvoir faire de la prévention, du vivre ensemble et éviter les conflits du quotidien. Et que la police nationale, elle s'occupe des grands bandits. Voilà.
Mais est-ce que dans le contexte actuel, ça veut dire où notamment les jeunes des quartiers populaires sont criminalisés, où il y a des problématiques vis-à-vis du deal, est-ce que c'est pas une police qui va forcément rester répressive et qui va continuer à avoir, même dans la façon dont vous le concevez, et qui va avoir un rôle de sanctionner plus que d'accompagner?
C'est les orientations qu'on donne à la police. La police aujourd'hui, moi, je suis horrifié par la manière dont la police municipale aujourd'hui fonctionne. Ils sont en bagnole pour mettre des prunes aux gens mal garés. Dans une ville comme Paris, les policiers doivent être à pied, à vélo, en contact avec les gens, pas en voiture. Et la question, ce n'est pas la répression. C'est la question du vivre ensemble et de diminuer le niveau de tension qu'il peut y avoir au quotidien entre les gens, parce que tout le monde n'est pas les mêmes aspirations, les mêmes accords, en particulier les jeunes. Et donc, la question de la police nationale, on n'a pas la main dessus. mais on peut quand même agir parce que les fonctionnaires de police sont quand même fonctionnaires. Hein, bon, et donc ils doivent respecter un petit peu les élus, les orientations des élus, donc dans un certain nombre de domaines, parce qu'y compris une partie de leur fonctionnement est assurée par des subventions des collectivités locales, quand même de la police nationale. Mais après, c'est un vrai problème, la police nationale. Moi, vous savez, je viens de Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous voulez, la police qui vient dans la cité habillée en Rambo, ils perdent toujours,
mais
voilà, parce qu'ils sont agressifs. Ils sont irrespectueux et une bonne partie d'entre eux sont ouvertement racistes. Donc forcément, ça crée des tensions. Mais la question de la police nationale, c'est pas au niveau municipal qu'on pourra complètement le régler. On peut essayer de fluidifier un petit peu les choses avec les commissaires dans les arrondissements. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans le 20e, où on a un commissaire assez ouvert, ce qui nous a permis de mettre en place un dispositif pour les violences sexuelle et sexiste qui est un peu novateur. Voilà, on essaiera de faire ce qu'on pourra, mais c'est clair qu'aujourd'hui on a un vrai problème avec la police. Si on veut que la police soit respectée par les citoyens, en particulier par les jeunes, il faut qu'elle soit respectable.
Bien sûr, mais par exemple, moi je reste aussi sur la police municipale. Je veux dire, on a vu des jeunes récemment qui se plaignent d'avoir des amendes, des milliers d'euros d'amendes qui étaient données par des policiers qui les connaissaient, qui les voyaient de loin. Ce sont des policiers municipaux. Et vous parlez du 20e, il y a eu l'affaire El Hassen Diarra très récemment. Donc on voit qu'en fait.
Ça, c'est la police nationale. El Hassen.
Mais même la police municipale, je veux dire, ça ne les empêche pas d'avoir le même rapport aux citoyens.
Tout dépend comment on embauche, comment on forme et quelle mission.
Ça, la question. Et donc, la formation.
Mais on souhaite que ces policiers soient insérés dans leur quartier. C'est-à-dire qu'on souhaite les embaucher en leur disant « Vous êtes affectés dans un quartier pour connaître le quartier, connaître les gens. » Moi, j'ai connu la police dans la cité où j'habitais, en Seine-Saint-Denis, où on connaissait les policiers. Voilà, on les connaissait. Enfin, il y avait une discussion. Sauf que ça s'est dégradé au fil du temps. Et qu'est-ce que vous voulez quand vous voyez un policier, vous avez peur, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Or, aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien avec le look gaulois comme moi, il est clair que vous êtes à Gare du Nord, vous avez, moi, je ne me ferai jamais arrêter. Si vous êtes bronzé, vous allez être arrêté. Systématiquement, il y a un problème. Et ça, on nous dit, ah, vous êtes contre la police et les filles. Mais ça, c'est, y a pas que nous qui le disons. Toutes les enquêtes publiques, le défenseur des droits, etc. Enfin,
bien
bref.
Sûr. Et à l'international, c'est totalement dénoncé.
Et on a un vrai problème avec la police française. Parce que quand on dit la police tue, nous sommes dans le pays où la police tue le plus de monde en Europe. Bon, parce qu'on est dans la même logique qu'aux États-Unis. Moi, je souhaite pas que, voilà, on soit dans la même situation qu'aux États-Unis en termes de morts, d'origine policière, au niveau de ce que connaissent les États-Unis. Donc, ça, c'est une bataille qu'on mène au niveau national. Et les filles, on est les seuls à le mener. C'est pour ça qu'on s'en prend plein la tête. Hein, voilà. Mais quand on dit la police tue, c'est un constat. On dit pas tous les policiers
sont tuent, des meurtriers.
Sont des meurtriers. Mais objectivement, pourquoi, quand il y a un, entre guillemets, attentat en France, il y a toujours un mort? On va en Allemagne, c'est exceptionnel, la personne est arrêtée et ça permettra de la juger. Bon, et alors, et puis, vous voyez, bon, là je reprends ma casquette de médecin, une bonne partie des gens qui, ces derniers temps, ont perpétré des actes qu'on pouvait qualifier de terrorisme. En fait, c'était des gens qui menaçaient. Non, mais c'était aussi des gens qui nécessitaient des soins.
Ah oui, bien sûr, on l'a vu plusieurs fois, voilà. Effectivement.
Et sur les.
Il y a plusieurs attaques au couteau, effectivement, voilà. C'est des personnes,
voilà,
qui étaient.
C'est les gens. Ouais. Et le problème aujourd'hui, c'est la dégradation. On revient à une de vos questions. Là, je reprends ma casquette d'urgentiste. Qu'est-ce qu'on dit, nous, les urgentistes? C'est que aujourd'hui, la dégradation du système de santé, et en particulier psychiatrique, fait que la majorité des patients, ils sont dans la rue ou en prison. Dans la rue ou en prison.
Bien sûr.
Voilà, ils n'ont rien à faire en prison. Et on n'a pas besoin d'autant de places de prison que ça. Il y a au moins 30% des gens qui sont en prison aujourd'hui qui devraient être dans des structures
d'accompagnement de
psychologique, etc. Rien à faire en prison. En les laissant en prison, on aggrave leur cas. Et ceux qui sont à la rue, écoutez, la moitié des gens qui sont à la rue à Paris sont des gens qui ont des troubles mentaux, parfois graves. voyez, moi, on a accueilli dans mon immeuble, parce qu'on avait au vent pendant plusieurs années, un SDF qu'on a essayé de réinsérer, mais voilà, qui avait un syndrome de persécution catastrophique, qui faisait qu'on n'arrivait pas à lui trouver une solution, vous voyez, de logement. Il voulait absolument rester dans la rue. En plus, il avait ce qu'on appelle un syndrome de Diogène, c'est-à-dire ramasser tout ce qui traînait, donc et régulièrement.
Il gardait tout, d'accord.
Voilà, okay. J'étais obligé de lui dire, non, ça, on met à la poubelle, Sylvain, voilà, bon bref. Et puis, si on ne prend pas en charge ces gens, on sait très bien, au bout de 6 mois à la rue, on n'arrive plus à les sortir de la rue. Voilà. Donc, il faut agir très précocement. Et c'est une raison pour laquelle aussi, dans notre programme, on a un plan d'urgence pour sortir les gens de la rue.
D'autant qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sortent de l'ASE, qui se retrouvent très rapidement à la rue, et que c'est vraiment une...
Et c'est la raison pour laquelle on a aussi, là, on veut en mettre en place, au-delà du dispositif jeune majeur, une prise en charge des jeunes issus de l'ASE, mais pas que issus de l'ASE qui sont en difficulté, jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Parce qu'il y a le trou, là.
Exactement, 18-25, on les jette à la porte dès qu'ils ont 18 ans.
Voilà, donc on les jette et c'est la misère, quoi. Je veux dire, et quand on se retrouve à la rue à 18 ans, c'est une catastrophe.
Très bien. On va passer sur notre troisième partie. On va réagir un petit peu à l'actualité. Ça vous fait quoi, d'être d'extrême-gauche?
Moi, mes camarades d'extrême-gauche qui sont... Voilà, que vous
le NPA et l'eau qu'on reçoit
le
ici.
Le NPA et l'eau, ils sont d'extrême-gauche. Pour moi, c'est la gauche. Enfin, c'est des bons camarades. On se retrouve dans plein de luttes. Au niveau syndical, on est souvent dans les mêmes syndicats. Hein, voilà, avec les camarades d'extrême-gauche, c'est CGT Sud. On mène les luttes ensemble. On se retrouve dans les manifs ensemble. On était en manif ensemble le 8 mars, par exemple. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. C'est de la manipulation pour faire peur. Dire c'est l'extrême-gauche. Et à l'extrême droite, c'est pour envoyer, vous voyez, pour mettre l'équivalence, il y a l'extrême droite et l'extrême gauche.
Exactement.
Et puis nous, au centre, on est les gentils,
les raisonnables.
Problème, les raisonnables, voilà.
Mais est-ce que globalement, il n'y a pas un problème démocratique sur le fait d'avoir été quasiment sur décision seule de Laurent Nunez, même si ça a été confirmé récemment, déplacé à l'extrême gauche dans ce que vous dénoncez, c'est-à-dire
Moi, je considère l'idée
de vous rendre infréquentable.
Aujourd'hui, on est dans une démocratie de plus en plus limitée. Hein.
Autoritaire, on peut le dire?
Elle est autoritaire. On a aujourd'hui le fonctionnement de la Ve République, c'est la raison pour laquelle on veut une Sixième République, fonctionnement de la Ve République telle qu'elle a été pensée par De Gaulle, mais telle qu'elle est aujourd'hui utilisée par Macron, c'est l'hyper-autoritarisme, et comme on l'a dit, c'est le nouveau monarque. C'est un vrai problème. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Et puis, la démocratie, c'est pouvoir contre pouvoir. On n'a plus aucun contre-pouvoir aujourd'hui. Que ce soit, je vais donner deux exemples. L'université que vous connaissez, une fois qu'on a élu le président de l'université, il a tous les pouvoirs. C'est la loi Pécresse, les conseils, les pseudo-conseils, et même les vice-présidents étudiants, on les achète puisqu'ils sont même, ils ont même une indemnité, les vice-présidents étudiants aujourd'hui. Quasiment, ils font partie de l'administration. Donc, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de contre-pouvoir à l'université. À l'hôpital, c'est la même chose. Le directeur, il est nommé, et les instances à l'hôpital, on donne notre avis, mais quel que soit l'avis qu'on donne, de toute façon, le directeur peut décider ce qu'il veut. Même au niveau de la sécurité sociale, je reviens là, j'étais au conseil, ce qui n'est plus un conseil d'administration de la sécurité sociale, ça fait 3 ans de suite que le conseil vote contre la loi de financement de la sécurité sociale, mais comme on n'est plus conseil d'administration, on a donné notre avis et il s'assoit dessus. Voilà,
c'est uniquement consultatif.
Donc, on est dans une démocratie, je dis, aujourd'hui, limitée. Et c'est un vrai problème, parce que quand on est dans une démocratie limitée, si on veut s'exprimer, on s'exprime comment? En prenant le fusil?
Alors, sans transition, moi, j'aimerais demander, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la mobilité dans Paris?
Alors, la mobilité dans Paris, d'une part... Là, je prends ma casquette de conseiller régional. Il faut savoir que Pécresse, là, est en train de privatiser les réseaux de bus. Hein? C'est-à-dire que là, on va avoir des gestionnaires de bus. Alors, il y a une partie des bus, ça va être géré par les Milanais, hein, les Italiens. Et puis d'autres, ça sera les filiales de la RATP. Donc, ils ont fait des appels d'offres. Ça permet que la filiale de la RATP ait le marché. Mais comme c'est une filiale de la RATP, ça devient droit privé. Donc, les employés sont transférés, ils perdent leur statut RATP. Voilà.
Donc, ils n'ont pas tous les avantages de travailler à la RATP.
Voilà. Donc, ils sont en train d'éclater la RATP. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, sur les Parisiens, on a un réseau qui est relativement dense, mais ce qui manque, et ce qui remonte, y compris dans le 13e, ce qu'on veut, c'est en lien avec les associations, les citoyens, multiplier les petits bus de traverse pour pouvoir faire les petits déplacements pour les gens.
Comme ceux qui sont à Montmartre, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Voilà. Pour que les gens puissent, dans leur quartier, quand ils sont avec une mobilité réduite, ils puissent prendre la traverse pour aller au marché qui est à 500 mètres, puis revenir chez eux sans porter leur sac. Voilà, parce que là, on ne prend pas le métro. Sur le temps que le métro parisien, il date d'il y a un siècle et demi, et le temps qu'on l'adapte aux personnes à mobilité réduite, ça risque de prendre du temps et ça risque d'être très compliqué. Et puis aujourd'hui, les bus, même s'ils sont plus adaptés pour le transport des personnes à mobilité réduite, ils roulent très très lentement dans Paris. Hein. C'est un vrai problème.
Mais c'est intéressant d'en parler de ça, des embouteillages dans Paris et de la pollution, parce que la municipalité sortante se vante d'avoir amélioré la qualité de l'air à Paris. Mais du coup, effectivement, ils ont fermé beaucoup de routes et il y a aujourd'hui des embouteillages. Est-ce que vous avez des idées comme ça pour fluidifier un petit peu tout le réseau parisien ?
Pour fluidifier le réseau parisien, c'est poursuivre ce qui a été fait. Alors on peut le faire de deux manières, hein, c'est-à-dire réduire la place de la voiture à Paris, c'est-à-dire offrir des alternatives. On peut le faire de manière autoritaire, comme dans certaines villes, comme Londres et New York, on fait payer. On met des barrières de péage, mais c'est très inégalitaire. Voilà. Donc nous, on préfère le faire par petites touches, hein, c'est-à-dire que ça devienne difficile de circuler et que les gens trouvent des alternatives. Vous savez, aujourd'hui, les artisans, les gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler dans Paris, ils sont relativement satisfaits de l'amélioration de la baisse de la circulation dans Paris parce qu'ils trouvent plus facilement à se garer qu'il y a quelques temps parce qu'il n'y a plus que 35% de Parisiens qui sont propriétaires d'une voiture. Donc ce qu'on veut nous c'est que à terme il y ait de moins en moins de voitures personnelles particulières à Paris, que les gens utilisent des traverses, des taxis pour se déplacer et que le parc parisien soit le plus électrique possible, le plus rapidement possible.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un retour envisageable à la trottinette ?
Oh ben, les trottinettes, il y en a aujourd'hui. Ce sont des trottinettes
électriques, publiques, comme il y avait il y a quelques mois.
Alors, le problème, d'abord, si on met en place un système vous savez, on est pour la municipalisation des Vélib. Et si on municipalise les Vélib, on peut tout à fait imaginer qu'on offre et des vélos et des trottinettes. Voilà. Hein. Et ensuite, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment on se respecte les uns les autres. C'est-à-dire que les trottinettes, c'est pas sur les trottoirs. On respecte aussi les limitations de vitesse, parce que c'est pas que pour les autres, mais c'est pour soi. Le nombre de gens que j'ai vus à l'hôpital sur des accidents de trottinette, c'est une catastrophe.
Oui, c'était surtout pour une question de sécurité que ça a été décidé d'être enlevé.
Oui, mais je veux dire, c'est un moyen de transport qui peut être sympa, la trottinette. Voilà, mais pas les trottinettes qui roulent à 50 km/h, quoi. C'est pas possible. Non, moi, je suis pour que les gens qui ont des wheels, moi, je suis pour la liberté. Donc, les gens peuvent utiliser une wheel s'ils ont envie d'une wheel, mais on fait attention. On roule pas comme un fou, on les débride pas. On est sur les pistes cyclables. Alors, il faut que les pistes cyclables, on en améliore un certain nombre. Moi, je me balade beaucoup à vélo. Le boulevard Magenta, c'est une cata, quoi. Moi, je veux pas une piste cyclable comme ça sur le trottoir. Parce que, d'une part, un jour où j'étais à pied, je me suis renversé par un vélo.
Ah, ça m'est arrivé aussi.
Voilà. Et quand je suis à vélo, je suis obligé d'être hyper vigilant par rapport aux gens. Donc, je roule doucement sur cette piste cyclable qui est complètement inadaptée. Il faut des pistes cyclables isolées, adaptées. Ça nécessite aussi de la concertation pour qu'on puisse aménager. Vous voyez, dans le 13e, là, circuler à vélo, place d'Italie. Mais c'est la misère. C'est la misère. Voilà, donc, parce que je le vis. Si on veut améliorer les choses, il faut discuter et prendre les bonnes idées auprès des gens qui sont directement concernés et ceux qui râlent, parce qu'il faut écouter aussi ceux qui râlent. Voilà. Et là, il y a des râleurs, il faut mettre de côté, mais il y a des râleurs qui râlent à bon escient. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de mettre tous ces gens-là autour de la table pour qu'on ait une vraie démocratie et que les gens, même ils peuvent se friter. Mais on s'explique et puis on essaye de trouver les solutions ensemble. Il n'y aura jamais le consensus absolu. Mais à partir du moment où on a dégagé une très large majorité, on essaye de mettre en œuvre. Et puis, si la mise en œuvre n'est pas adaptée, ensuite, il y a le droit aussi des citoyens de contrôler de critiquer pour qu'on modifie si on n'a pas bien fait.
Très bien. Donc, pourquoi pas les trottinettes à Paris, hein, le retour. Je sais que tu attends ça. Et pour te donner raison, les trottinettes à Marseille, il n'y a pas grand-chose de plus agréable. Donc voilà.
Mais oui, c'est très agréable de se promener en trottinette.
Exactement. Voilà. J'avais une autre question qui était sur la solidarité internationale. On sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plein de guerres. On pense à la Palestine, on pense aux derniers événements au Venezuela, par exemple. Quelle solidarité, parce qu'on sait que la ville de Paris a un sacré rayonnement international. Quelle solidarité internationale, vous envisagez
Paris, qui fait partie des villes pour la paix, mais on sera vraiment une ville pour la paix. Pas à géométrie variable.
C'était un peu le sens de la question, voilà, parce qu'on a vu des...
Pas à géométrie variable, c'est-à-dire que la paix... Aujourd'hui, il y a 115 pays où il y a des conflits. 115 pays qui sont concernés par des conflits. Donc pourquoi ? La question, c'est, nous, on veut un retour à des instances internationales. On sera contre cet impérialisme américain et le fait que la France soit à la remorque des États-Unis sur ces questions-là. Et on utilisera la force et la puissance, le rayonnement de la ville de Paris pour le dire de manière claire et essayer, avec d'autres grandes villes, eh bien, de pouvoir peser internationalement pour qu'on aille vers la paix et non pas vers la loi du plus fort. Parce que, pour moi, quel que soit ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, moi, je suis fondamentalement contre la peine de mort. On est un pays contre la peine de mort. On va pas aller... On a tué la France à participer, à aller tuer comme un chien Kadhafi en Libye, alors qu'on l'avait accueilli à l'Élysée sous sa tente. Kadhafi avait le droit à un procès s'il y avait des raisons pour un
Kadhafi,
procès.
Kadhafi, Thomas Sankara, tous droit à un procès.
Voilà, donc, et on tue les opposants. Non, mais je parle de Kadhafi pour aller plus loin et pour revenir au guide suprême en Iran ou l'enlèvement de Maduro. C'est une politique de bandits, de voyous. Parce que forcément, les réactions, et en France, il ne faudra pas s'étonner s'il y a des attentats. Parce que le seul moyen du pauvre de se défendre, celui qui n'a pas de porte-avions, de missiles, s'il veut faire la guerre, c'est les attentats. Forcément, on aura des attentats. On aura des attentats en France dans les mois qui viennent, c'est clair. Parce que l'Espagne qui n'est pas un pays... c'est pas des révolutionnaires. Le premier ministre espagnol, c'est pas un révolutionnaire. Le fait, il a pris ses responsabilités, il interdit de poser des avions. Nous, Monsieur Macron, petit toutou de Trump, il autorise que c'est pas les bombardiers. Mais les bombardiers, ils ont besoin de refouler. On a autorisé les avions qui permettent aux bombardiers de refouler, d'aller bombarder l'Iran. Je suis désolé, ça, on aurait dû dire niet. Le pouvoir de l'Europe contre Trump aujourd'hui, il suffit pas de dire on n'est pas, Trump il n'est pas gentil, il n'est pas... Non. Si l'ensemble de l'Europe interdit de poser des avions qui participent à la guerre aujourd'hui en Iran, on les met dans la merde, les Américains. Voilà, c'est ça qu'on demande.
C'est pas forcément gagné. Les filles, est-ce que vous avez une dernière question ?
Je pense que tous les sujets qu'on voulait évoquer ont été évoqués à cette table.
Très bien. Si tout a été dit, c'est parfait, puisqu'on arrive sur la fin de l'émission. Donc, merci Christophe. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Moi, je suis très content d'être venu. Je ne connaissais pas votre radio. Je vais l'écouter maintenant.
Très bien. Je vous enverrai l'émission.
Je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage médiatique, on a besoin de ces médias qui ne sont pas dans les grands groupes des quelques oligarques là, qui possèdent 80%. Aujourd'hui, de l'information en France.
Je voulais vous parler de concentration des médias, puisque c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais on n'a pas eu le temps d'aborder la question.
Pour ça, c'est un vrai. Le moyen, c'est de soutenir les médias alternatifs, comme ça a été fait et ça a été reproché à Jean-Luc Mélenchon quand il a invité les médias alternatifs.
Bien sûr, oui.
Et puis, je pense qu'aujourd'hui, moi, je compte beaucoup sur la jeunesse qui n'est pas devant CNews et devant la télé traditionnelle qui va chercher l'information ailleurs. Alors, il faut qu'on forme la jeunesse à pouvoir faire le tri dans l'information parce que c'est compliqué. Mais c'est important de pouvoir se faire son idée soi-même et pas être dépendant des médias dominants qui diffusent des informations très orientées.
Très, très bonne conclusion. On éteint CNews et on écoute Mon Paris FM. Merci Christophe Prudhomme pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Merci Ambrine.
Merci.
Merci, merci Asia. Nous venons, on se retrouve bientôt puisqu'on va bientôt accueillir d'autres candidats à la mairie du 13e pour d'autres émissions de Politiquement Vôtre. Et ensuite, après les élections, évidemment, on continuera nos émissions. Merci à notre directeur Daniel d'avoir assuré la technique et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt dans Politiquement Vôtre. Ciao.